France Culture, il est 23h, les voix de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Création on air.
On air.
On air.
Creation on air.
Bonsoir, elle s'appelle Camille Dusselier et doucement écrit « Ce matin, je me suis décidée à aller voir ailleurs. » Il faut reconnaître qu'on voit toujours mieux ses paupières en fermant les yeux. Alors j'ai médité au réveil. Je croyais voir quelque chose dans les tourbillons colorés quand soudain j'ai quitté mon corps, sans le vouloir. Est-ce que je rêve ou un voyage astral de circonstances m'attend aujourd'hui, alors que je suis à jeun et que mes règles s'annoncent? Une sortie de corps est un trip sans causalité, un dédoublement. Une partie de moi lentement, hors du corps s'anime, comme dressé, poussé, soulevé. À quelques centimètres, je vois mon corps physique allongé sur le lit, apaisé, alangui, et fatigué par les mêmes pensées en boucle qui s'accumulent sur le dessus du crâne. Création on air, le guide du voyageur astral, par Camille Dusselier et Nathalie Salles.
Première expérience donc de conscience ou d'état modifié de conscience, parce qu'il s'agit de cela, c'était à l'adolescence. Donc j'étais en état de veille totale, j'étais au lycée, en conversation le temps d'une récréation avec des amis, et bah, soudain j'ai vu la scène de très très haut, et je nous ai vus en train de parler. Alors pour les voix c'était vraiment beau, des choses comme ça. Par contre, je voyais très très bien et je sentais tout, c'est-à-dire je sentais les états des personnes qui étaient avec moi. Le mien, difficilement, parce que c'était, c'est monté très vite. La sensation que j'avais, alors c'est une traduction physique que j'ai, qui n'est pas la réalité, qui s'est montée à toute barzingue, quoi, voilà, toute vitesse, plus vite que la lumière. Et j'ai eu très très peur parce que je me suis dit que jamais je pourrais revenir. Une fois que j'ai eu peur, en fait, ça a stoppé. J'ai mis tous mes efforts, on va dire, d'énergie pour stopper le mouvement, notamment j'en avais peur. Et puis je me suis rendu compte que ben, si je regardais un peu plus, non seulement je voyais la cour, certes, mais je voyais tout le lycée et je voyais en fait jusqu'à la mer, qui est à 30 bornes. C'était à Arles à l'époque. Et donc je voyais Arles, je voyais distinguer tous les monuments, je voyais les Alpes, je voyais le ciel. Et je me dis, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Donc c'est une réalité physique, certainement, mais autre.
Plus vieux souvenir de voyage astral, mais c'était la première fois quand j'étais étudiante. J'étais allongée sur mon lit, je me reposais l'après-midi et puis tranquillement, sans penser à rien de spécial, entre deux cours. Et j'avais pas pris de substances ni hallucinogènes, ni café, ni des trucs, enfin de drogues extérieures ou d'autres quoi que ce soit. Mais j'en prenais pas et j'en prends pas. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, je me suis trouvée à l'extérieur de mon corps physique. Ça a duré quelques secondes. J'ai regardé mon corps physique. J'ai eu le temps juste de me dire, est-ce que c'est ça la mort ?
C'est votre premier voyage ?
Mmh.
Vous en faites pas. C'est très rare quand ça foire ici.
Le guide du voyageur astral.
J'ai commencé tôt la méditation à 12 ans. Là, j'ai tout de suite approché la question de façon assez pratique, puisque pendant la méditation, il y a beaucoup, quand on pratique régulièrement et sérieusement, il y a beaucoup de phénomènes un peu étranges qui surviennent, parce qu'on modifie l'état de conscience quand on médite. Donc, il y a toutes sortes de manifestations apparemment physiques ou mentales, par exemple des mémoires très anciennes qui remontent, des choses comme ça. Donc j'ai toujours eu cet intérêt profond, et depuis tout petit, pour le domaine de l'invisible et une fascination pour tout ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici, quel est le but de l'être humain, comment est-ce qu'il en est arrivé là et où est-ce qu'il va ensuite. Et la méditation et le yoga ont été et la sortir du corps ensuite ont été des outils pour pouvoir mettre des explications sur ces questions que j'avais depuis toujours.
Et quand ça s'est reproduit plus longtemps. Et là, j'ai pu commencer à m'apercevoir que, bah, effectivement, je pouvais flotter et que, en flottant, je pouvais traverser le plafond de la chambre d'étudiante, je pouvais traverser l'armoire. Et forcément, c'était une expérience extraordinaire, mais en même temps étonnante. Mais j'ai eu le temps de me dire, mais j'ai un cerveau et je pense. Mon cerveau, normalement, est dans mon corps physique et ça ne m'empêche pas de penser. Mes yeux sont dans mon corps physique, ça ne m'empêche pas de voir. Mes oreilles, enfin pareil. Donc, je veux dire, j'ai des sens décuplés, j'entends beaucoup mieux, je vois des choses physiques, mais aussi beaucoup plus rayonnantes, enfin, je veux dire, avec beaucoup plus de vie. Donc, c'était impressionnant de réalité. Et je me disais, mais alors, dans ce corps physique, qu'est-ce qu'il y a, quoi, en définitive? Puisque tous les organes sensoriels, en fait, sont dedans, et que moi, en fait, à l'extérieur de ce corps physique, ben, tout marche encore mieux que dedans.
Finalement, lorsqu'on sort de son corps et qu'on se rend compte qu'on n'est pas ce corps-là et qu'on n'est pas limité à cette vie en plus, qui a certainement eu beaucoup de choses avant et qui aura beaucoup de choses après, ça aide à vivre la vie quotidienne de façon beaucoup plus sereine quelque part, puisque on se sent moins étriqué dans sa propre vie, et la sortie hors du corps aide à donner du sens à sa propre vie parce que quelque part, elle donne une vision plus globale de ce qu'est la réalité. Et lorsqu'on a cette vision plus globale de ce qu'est la réalité, notre réalité de tous les jours n'est plus si dramatique et plus si pénible peut-être.
J'ai eu accès à un plan de conscience qui m'a amené dans le système solaire. Et je l'ai reconnu parce que je me suis dit, ah, c'est dingue, c'est les planètes. Je voyais très bien toutes les planètes, mais pas du tout comme on les représente habituellement. C'est-à-dire, je voyais leur énergie, l'énergie atomique de chaque planète. Donc, c'était des boules d'énergie lumineuse avec une densité énergétique aussi. Je sentais aussi cela. Et le soleil, et des choses qui passent. Des choses qui passaient devant moi. J'ai dit, oh, c'est dingue, c'est quoi? Et je pensais à quelque chose de très physique, du coup. Voilà, il y a un bout de météorite qui passe. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ah non, mais pas du tout. Hein, mais c'est une formule mathématique. Et ça ressemblait à quelque chose de très précis, qui m'est difficile de rendre. Ça serait une forme géométrique enroulée sur elle-même avec une structure intérieure quadrillée, un peu les choses psychédéliques que l'on voit quand on prend des drogues. Et je précise donc au passage, je n'ai jamais pris quoi que ce soit, mais tout ce qu'on peut voir de représentation psychédélique, on peut plus ou moins dire que c'est assez proche de ce qu'on peut traduire mentalement à ce moment-là de ce que l'on expérimente. Quelques jours plus tard, je tombe sur un livre de physique quantique, je tourne une page et pom, je tombe sur une représentation et c'était exactement ce que j'avais vécu. Donc je me dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était effectivement la traduction d'une formule mathématique. Je ne sais pas laquelle, mais quand je l'ai lue, j'ai beaucoup pleuré.
Quand on part en voyage astral, est-ce qu'on part loin de soi?
Je dirais qu'on part avec soi. Parce qu'on part loin de l'enveloppe physique. On part loin, en fait, du vêtement qu'on a décidé de prendre pour une vie et puis qui a peut-être une personnalité. On garde sa personnalité, bien entendu, mais on part avec une partie plus fine de soi, justement, avec la partie la plus élevée, enfin, peut-être. Et dans le voyage astral, il y a encore un voyage astral. Dans le voyage astral, moi, je dirais, c'est comme les poupées russes. C'est-à-dire qu'on va s'extraire du corps physique et puis, bon, bah, d'année en année, évidemment, j'ai fait d'autres expériences. Et ces expériences m'ont amené à comprendre que je pouvais faire m'extraire de ce corps astral et puis aller de plus en plus finement vers ce qui est l'essence de soi. Mais là, il n'y a pas de description, il n'y a pas de choses physiques, il n'y a pas de matière. Donc, on ne peut pas décrire. Mais il y a quand même cette possibilité de s'extraire et d'aller de plus en plus profondément en soi. Au lieu de penser être à l'extérieur de soi, en fait, on plonge en même temps à l'intérieur de soi.
Et puisque nous sommes nous-mêmes l'univers, on s'aperçoit qu'on va dans nos cellules tout autant qu'on va dans d'autres sphères.
Si déplacement, on veut bien utiliser ce terme, si déplacement il y a, c'est simplement l'intérieur de soi. Le voyage est là. Deuxième, c'était un peu plus loin, et je me dis, ça ressemble à la Voie lactée, de ce que j'en connais du moins. ils sont nombreux, il y a beaucoup, beaucoup de points lumineux, et j'étais au milieu, donc c'était... Et puis une troisième fois, et là je dis, ah là là là, où est-ce que je suis? Là, je ne peux pas te décrire, parce que je ne sais pas. J'ai aucun mot qui va avec le plan que j'ai connecté à ce moment-là, qui était différent des deux autres. Certainement pas grandiose, hein, c'est juste que moi, je ne l'ai pas reconnu. Et j'ai eu très peur parce que ça m'a emmené très très loin. C'est comme si on a conscience de quelque chose qui est intraduisible, qui est de l'ordre de la connaissance, mais de quoi je suis incapable de le dire. Et j'ai eu très peur à nouveau, en me disant, ça y est, je redeviens barzingue. Il faut redescendre, quoi. Alors, quelques temps plus tard, j'ai fait la même chose. J'étais connectée à un autre plan, mais ce coup-ci à l'intérieur de mon corps. Donc, j'étais une cellule et j'ai fait toutes les parties de mon corps avec plein de cellules qui passaient à côté, comme ça. Donc, c'était très physique comme sensation. Donc, c'était beaucoup plus physique que ce que j'avais vécu précédemment. La pensée qui est venue à ce moment-là, c'était « c'est exactement la même chose ». C'est-à-dire, le plan précédent, très très loin dans le cosmos, prononçons ce mot, c'était identique. Il y a l'état physique et puis il y a l'état mental, il y a l'état psychique et puis il y a l'état de conscience. Voilà, il y a plusieurs états. L'état physique en est un parmi d'autres. Donc je peux avoir aussi bien conscience de ce qui se passe en moi ou en toi, puisque je peux aussi avoir accès, en fait, si je peux, si tu me permets.
Une des autres possibilités lorsqu'on maîtrise un peu la sortie du corps, c'est effectivement de venir en aide à des gens qui en ont besoin. On peut aider quelqu'un qui est malade, puisqu'avec le corps énergétique, comme les gens qui font du magnétisme ou les gens qui font du Reiki, toutes ces pratiques utilisent l'énergie invisible. Et bien lorsqu'on est hors de son corps, c'est exactement cette énergie-là qu'on peut utiliser.
Faut-il des papiers spécifiques pour voyager dans le cosmos ou dans les mondes extraphysiques ?
C'est marrant que tu utilises des termes matériels pour exprimer un monde immatériel. Oui, tous les papiers, c'est-à-dire soi.
Non. Si j'ai un grand conseil à donner pour les gens qui veulent sortir hors de leur corps, c'est pas tant de trouver un passeport, parce qu'on ne vous en délivrera pas. Il n'y a pas forcément des cartes, mais c'est de faire un vrai travail sur soi-même, en vérité, et en particulier un vrai travail sur ses peurs. Justement, la peur de la mort, la peur du mal, la peur du mal sur la terre qui se manifestera à ce moment-là peut-être hors du corps, mais ce sera juste une opportunité de plus de travailler là-dessus.
Ces papiers sont d'ordre énergétique. Il n'y a pas d'administratif à ma connaissance. En revanche, il y a des barrages énergétiques.
Il y a des personnes qui m'ont dit « Mais comment vous savez que vous êtes sur tel plan, etc. ?» Comme s'il y avait un panneau indicateur. Ben non, il n'y a pas de panneau indicateur. Je ne sais pas sur quel plan je vais, mais je sais qu'en fait, je vais aller sur des plans de conscience qui correspondent à mon état d'être. Et c'est là où je me suis aperçue de l'importance, et les physiciens s'en aperçoivent au niveau de la physique quantique, combien nos pensées avaient une influence sur notre vie et sur l'état vibratoire dans lequel on est. Comment elles peuvent changer notre environnement? Comment le fait de pouvoir avoir des pensées d'amour ou au contraire des pensées de peur peuvent faire qu'on est dans un environnement complètement différent? C'est un peu comme pour une radio quand on change de longueur d'onde, moi je dirais, si je pouvais comparer à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va passer d'une longueur d'onde à une autre selon l'état dans lequel on est ou selon ce qu'on pense ou selon notre état à nous, quoi.
Si jamais demain je sors de mon corps, je vais probablement avoir un corps énergétique qui va ressembler beaucoup à mon corps physique actuel. Parce que c'est l'image que j'ai de moi-même. Toutefois, il est beaucoup plus mobile, ce corps, il est beaucoup plus élastique. C'est-à-dire qu'encore une fois, puisqu'on n'est pas soumis aux lois physiques, si je veux étendre mon bras et que tout d'un coup il fasse 3 mètres, ce corps énergétique va suivre cette intention.
Alors, en ce qui me concerne, par exemple, et quand j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient hors de leur corps physique, on prend le corps qu'on a l'habitude d'avoir. Et ce qui veut dire que, on va s'habiller ou se mettre le corps physique dont on a l'habitude. Par contre, après la mort, c'est la même chose. Je veux dire, tout le monde veut faire un voyage astral et personne ne veut mourir, mais c'est la même chose en définitive. Si ce n'est qu'on ne revient pas dans son corps physique. Et là, à ce moment-là, petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut modeler le corps physique, qu'on peut lui donner l'âge qu'on veut, qu'on peut mettre les vêtements qu'on veut, et que ça n'a plus d'importance. Enfin, je veux dire, c'est tout est faisable, tout est possible.
Pour continuer sur cette question de corps et de limites, lorsqu'une personne non-voyante sort hors de son corps, elle retrouve la vue puisqu'elle n'utilise plus le corps physique mais le corps énergétique, et cet autre corps n'est plus dépendant du corps physique. La vue est là, et des personnes à mobilité très réduite qui sont paralysées par exemple, si elles travaillent sur la sortie du corps, elles peuvent à ce moment-là retrouver leur liberté lorsqu'elles sont hors de leur corps et avoir cette sensation de liberté qu'elles n'ont plus lorsqu'elles sont dans leur corps physique. C'est également, je pense, un phénomène à explorer, puisque c'est tout à fait formidable.
Peut-on voyager avec des enfants?
Ah, certainement. Les enfants nous précèdent, je pense. Et les enfants ont des voyages beaucoup plus évident que les nôtres.
Les enfants sont très spontanément amenés à sortir hors de leur corps. Et lorsque le matin, ils racontent leur expérience à leurs parents, en général, ils prennent ça pour un rêve, simplement. Et je pense notamment que les terreurs nocturnes des enfants ne sont pas seulement le fait de cauchemars, mais simplement de sortir du corps que les enfants ont mal vécu parce qu'ils étaient un peu désorientés, ils n'ont pas de repères, on ne leur parle jamais de ce genre de choses-là. Et donc, lorsqu'ils se retrouvent même hors de leur corps une nuit, Ils sont tout à fait terrifiés et ça, je pense que ça peut être une des explications pour les terreurs nocturnes.
C'est plutôt eux qui sont aptes à nous ramener à... Oui, on peut y aller avec les enfants.
Ben, je dirais qu'on peut voyager avec qui on veut si on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire si on décide du même voyage. Un enfant, souvent, va avoir des plans qui lui correspondent. C'est-à-dire chaque être va avoir des plans qui lui correspondent. Et on peut dire qu'on peut aller avec qui on veut ou on va rencontrer qui on veut qui est sur le même état vibratoire. On parle de vibration, mais enfin, ou les mêmes pensées ou la même énergie. On peut appeler ça comme on veut. Et c'est pour ça que c'est assez extraordinaire justement de voyager et de se dire ben en fait on peut se rencontrer, on va rencontrer des êtres qu'on aime, mais il faut savoir que toutes les nuits, tout le monde sort de son corps physique, tout le monde fait un voyage astral.
Un de mes professeurs, lorsque un de ses fils était plus jeune, prenait son fils par la main de son corps astral et l'emmenait faire justement ce genre d'expérience assez formidable qui est d'aller nager avec des baleines ou tout plein d'expériences sur notre planète Terre. Par exemple, vous pensez à l'intérieur d'un volcan et vous pouvez vous retrouver à l'intérieur de ce volcan. Donc on peut passer au travers d'un mur, on peut voler, on peut se télétransporter directement à l'autre coin de la planète. On n'est plus régi par les lois physiques.
J'ai une vue, par exemple, à 360 degrés, je veux dire, et puis c'est vraiment le contraire du rêve tel qu'on l'entend. C'est pas flou. Tout a une vie, par exemple, toutes les particules d'une tasse, d'une table, d'un fauteuil, je veux dire, vivent pleinement. Je veux dire, on voit les atomes qui bougent, donc c'est assez extraordinaire. Je pense, bien sûr. Et donc, je me suis amusée au début à essayer de me donner des preuves, quoi. Donc, comme j'en parlais pas à d'autres, parce que je me suis dit, je vais être prise pour une folle. Je vais donc juste faire en sorte d'aller dans des lieux et d'y aller le lendemain physiquement et puis de voir si ça correspondait bien ou comment c'était. Donc c'était tout à fait ça. Alors ça, c'était au début. Puis après, j'ai poussé un peu plus loin. Puis après, j'en ai parlé à 2-3 amis très proches. Et un jour, je me suis dit, ben maintenant, je peux, avec le décalage horaire, me retrouver aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis allée voir le film « Les dents de la mer » à l'époque. Qui donc n'était pas passé en France et je pouvais ramener des détails pour donc les amis proches et quand le film est sorti donc ils ont pu voir ces détails que on ne pouvait pas connaître si on n'allait pas dans le pays. Le seul problème c'est que quand je rentrais dans le corps physique, j'avais l'impression de rentrer dans un vêtement trop petit, trop étroit, désagréable. Enfin bon, il fallait avoir un bon équilibre pour pouvoir faire ce type d'expérience et heureusement je l'avais. Pour pouvoir vivre à la fois comme ça hors de son corps physique et puis dans son corps physique et de reprendre les cours, de reprendre la vie normalement, que ce soit pas une fuite.
Si on a une attention particulière, une écoute au monde, aux êtres, on est dans cet état de conscience, mais constamment. C'est juste qu'on n'a pas toujours cette sensibilité, parce que l'état physique ne le permet peut-être pas forcément à ce moment-là, ou l'état mental, on est préoccupé par quelque chose, mais en réalité, on y est toujours. On va dire que c'est notre qualité de présence. On parle beaucoup de ça en anthropologie, et j'aime beaucoup. C'est la présence au monde. On n'est pas sans conscience. Personne n'est absent de conscience. Le tout, c'est de rester sur ce plan de conscience-là. Et ça allège énormément la chose. Ça allège la vie, ça allège la façon de voir les événements. Même les événements qui sont joyeux. C'est-à-dire qu'on arrive à un même état d'équilibre, que l'événement soit désagréable, ou que ce soit un moment de joie, de plénitude totale, d'excitation. On n'est plus dans l'exaltation, on est juste dans la reconnaissance de ce que les choses sont. Et on le vit de manière pleine.
Pour quelqu'un de non averti, qui n'a pas eu du tout l'intention et qui ne sait même pas que le phénomène de déconnexion de la conscience hors du corps est possible, si jamais, de façon naturelle et spontanée, quelqu'un se retrouve hors de son corps, même si c'est un maître en dehors de son corps, ça peut être très effrayant, d'autant plus que Il y a ce phénomène de paralysie physique qui peut survenir, puisque la conscience n'est plus à l'intérieur du corps, donc on n'a plus véritablement accès au système nerveux, j'imagine en tout cas. Et donc, si on veut bouger son corps, on ne peut pas. C'est tout à fait troublant, mais pas grave.
La langue est-elle un obstacle ?
La traduction est un obstacle à la langue. La langue n'est pas forcément un obstacle entre les êtres pour communiquer.
Il me semble, lorsqu'on rencontre quelqu'un hors de son corps et qu'on essaie de communiquer avec, ce sera plus fait de façon télépathique, puisque le langage avec les mots, c'est vraiment un attribut du corps physique. Et lorsqu'on utilise un autre corps plus subtil et qu'on utilise sa conscience, on n'a pas besoin d'utiliser les mots. Et on peut, je pense qu'on peut, mais communiquer par télépathie, lorsqu'on est hors de son corps, c'est beaucoup plus efficace que le lent processus de la parole auquel on est habitué.
La télépathie est très pratiquée, on se comprend instantanément. J'entends toujours dans ma langue et dans ma tête.
Ce qui fait que moi, la sensation que j'avais, donc, c'était d'avoir comme un micro au centre du crâne qui me traduisait instantanément ce que me disait la personne. Donc, il n'y avait même pas besoin de parler. C'était aussi, ça pouvait se faire par pensée. Mais une personne qui parle, disons que c'est traduit instantanément. Donc, il n'y a plus cet obstacle de langage. Et ça, c'est extraordinaire.
Tu as survécu.
Quelque part, dans leur cinquième dimension, ils nous ont sauvés.
Ah, c'est qui ça, Hill ? Et au nom de quoi ils voudraient nous aider, hein ?
Je n'en sais rien, mais ils ont construit cet espace tridimensionnel au sein de leur réalité à cinq dimensions pour vous permettre de la comprendre.
Ouais, ben, c'est raté.
Mais non. Vous avez vu qu'ici, on a donné au temps une dimension physique. Vous avez compris que vous pouvez exercer une force à travers l'espace-temps.
La gravité. Comme porte-message.
Affirmatif.
La gravité traverse les dimensions, le temps y compris.
Apparemment.
Notre culture est définie par certains paramètres et d'analyse de l'environnement dans lequel on est, donc notamment physique. C'est la 3 dimensions. Si on commence à partir 4, 5, 6, 12, puisque la physique quantique, merci beaucoup, maintenant arrive à corréler certaines choses qui sont vécues dans d'autres cultures et qui sont traduites plutôt par les chamans. Mais la physique quantique, ils sont en train de rendre tangible ce qui est su depuis de longs millénaires partout dans le monde. Le temps, l'espace, donc tout est mêlé et c'est autre, c'est-à-dire même Einstein est dépassé, c'est même au-delà de ça, puisqu'on s'arrête à la lumière avec lui, à la vitesse de la lumière, on va bien au-delà de la vitesse de la lumière, tout est ponctuel, tout est présent au même instant.
C'est clair que pour notre intelligence qui est encore linéaire, et je pense que ce n'est pas le cas des enfants qui naissent aujourd'hui, on a besoin de s'exprimer de façon linéaire. Alors on dit, au début, on parle de Big Bang, et on a toujours besoin de parler avec une temporalité. Et c'est cette notion de compréhension sphérique de l'existence qui change tout. Selon l'endroit où on se place sur l'orange, on n'a pas la même conscience de ce qui est vécu. Donc si je suis à la périphérie de l'orange, je suis un point et je peux voir éventuellement un trait qui me relie au centre et qui sont l'ensemble de mes expériences depuis un point de départ qui pourrait être le centre de l'orange. Mais si je fais le tour à l'extérieur de l'orange, je commence à avoir un paquet d'informations. Et si je fais plein d'ellipses ou cette spirale tout autour de l'orange, du cœur jusqu'à la partie extérieure, et si j'ai la conscience globale de l'orange, Alors, ce qui se passe à n'importe quel point en surface de l'orange ou dans l'orange n'est plus linéaire, puisque je vois l'ensemble de tout ce qui se passe dans cette sphère. Nous sommes multidimensionnels, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que ici, maintenant, dans cette dimension. Nous expérimentons dans plein de dimensions différentes qui se situent dans plein de sphères de vie différentes et nous sommes interreliés tous les uns avec les autres.
Est-ce qu'il y a un décalage horaire?
Alors, on est complètement décalé d'un point de vue trois dimensions. Par contre, on est complètement calé si on est dans les plusieurs dimensions, puisqu'il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps.
Alors, le temps, lorsqu'on est hors de son corps, peut avoir tendance à s'étaler de façon très étrange ou à se raccourcir aussi de façon très étrange. Par exemple, vous sortez hors de votre corps. Et avant d'induire l'état de sortir du corps, vous voyez qu'il est, je ne sais pas, 3h du matin. Vous faites votre sortie hors du corps, vous avez l'impression d'être sorti hors du corps pendant 2h. Vous revenez, vous ouvrez vos yeux, 15 minutes sont passées. C'est-à-dire que le temps se dilate ou se rétracte. Ça dépend beaucoup, je pense, de l'état de conscience et de la dimension dans laquelle on projette sa conscience. Mais le temps n'est plus le même que celui auquel on est habitué lorsqu'on est en état de veille.
Le temps est complètement différent sur les plans subtils. Et par exemple, moi, quand je fais 3 heures de voyage hors du corps, 3 heures de temps physique de voyage hors du corps, c'est comme si j'avais fait 2 journées de sortie hors du corps. J'ai vécu des expériences qui peuvent se résumer en 2 jours. Mais si ça dure plus longtemps, à un moment donné, le corps physique va rappeler le corps astral à lui. Parce que justement, ça peut être fatigant. C'est comme si à un moment donné, au lieu de se ressourcer, il va se dévitaliser. C'est-à-dire qu'il perd sa substance qui lui donne de l'énergie. Et le corps physique, moi, je sens très bien, au bout d'un certain nombre d'heures, je sens très bien ce qu'on appelle, dans les milieux qui connaissent ce sujet, c'est une espèce de cordon ombilical subtil qui nous relie entre le corps physique et ce corps subtil, qui disparaît au moment de la mort parce qu'on ne revient plus dans le corps physique. Mais tant qu'on est vivant, tant qu'on a un corps physique, le corps physique va appeler peu à peu, enfin, il va tirailler même, en fait. On va sentir une présence, on va dire, bon, maintenant, ça va, l'expérience est suffisante, il faut regagner le corps physique pour qu'il puisse se régénérer et puis vivre.
Je pense notamment à un Américain qui s'appelle Thomas Campbell, qui est un physicien qui travaille notamment à la NASA, qui a écrit une trilogie très intéressante où il développe un modèle de la réalité et il parle de la sortie du corps. Il parle principalement de la conscience dans son œuvre et il explique que les croyances jouent énormément sur ce qu'on va expérimenter lorsqu'on sort hors de son corps et que si on a une croyance que forcément la conscience ou l'âme est reliée au corps physique par une corde d'argent, on verra une corde d'argent qui est soit attachée au nombril, soit attachée à l'arrière de la tête. Mais si on n'a pas cette croyance, il n'y en aura pas parce que de toute façon la conscience n'est pas reliée fondamentalement au corps physique par une corde d'argent.
De merveilleuses vacances au fond de l'océan.
Mais vous êtes submergé de têtes.
Vous avez toujours voulu escalader les montagnes de Mars.
Mais vous êtes sur la mauvaise pente. Alors poussez la porte de la société Recall, où vous pourrez vous offrir le souvenir de vacances de rêve, moins chères, moins dangereuses et mieux que le vrai voyage. Ne laissez pas la vie vous passer sous le nez. Appelez Recall et venez vous offrir le souvenir de votre vie. Appelez Recall. de vous offrir le souvenir de votre vie.
Est-ce que vous avez visité d'autres planètes ?
Oui, bien sûr. À ce moment-là, l'espace et le temps n'ont plus d'importance. Donc, il n'y a pas de difficulté à y aller. Et bon, ben, c'est vrai que j'ai peut-être une prédilection par rapport à une planète qui est la planète Vénus. Alors, quand un humain arrive sur la planète ou sur d'autres planètes en disant « Ah ben non, on ne voit rien ben, », évidemment, avec les instruments physiques, les êtres étant passés sur un autre niveau, c'est comme si on disait ben oui, avec nos yeux, on ne voit pas les fantômes. C'est la même chose, quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas, c'est parce qu'on ne les voit pas, parce que nos instruments sont trop concrets, enfin, trop, d'une vibration trop basse, quoi, pour être capable de capter des entités qui vivent, et qui vivent vraiment, d'une manière tout à fait physique dans leur monde. Mais toutes les planètes sont habitées, toutes les planètes ont une existence souterraine aussi, et toutes sont habitées. Mais elles sont habitées sur des plans plus subtils.
J'ai souvenir d'un voyage sur Orion. Alors souvent, c'est des voyages qui sont pas que sur un lieu. J'avais eu droit cette fois-là à Orion et Vénus en même temps. J'ai fait un voyage sur Vénus. En gros, c'était un lieu, je ne sais pas si tout Vénus est comme ça, mais c'est pas exclu, où tout le monde est en pénétration en permanence. Enfin, en permanence. C'est tout à fait normal, comme on se serre la main dans la rue quand on se reconnaît tout. Là, ils se font des espèces de grandes fêtes que nous, on qualifierait d'orgiaques, qui sont des immenses partouzes, mais qui, ce terme-là n'est absolument pas adéquat. C'est juste une façon d'être en extase et en rencontre. On est en union sexuelle en permanence.
Par exemple, on peut atteindre l'orgasme, mais pas seulement physiquement. Quelquefois, c'est même à distance, je veux dire, il peut y avoir des ondes qui font qu'à un moment donné, il y a cet amour-là qui existe. Et puis, il y a cette sensation, effectivement, cette vibration qui fait que, bon, ben, on peut aller sur des hauteurs différentes. Ça peut se faire physiquement, ça peut se faire non physiquement, mais ça se fait.
Y a-t-il une monnaie sur Vénus ?
Non, il n'y a pas de monnaie, il n'y a que des échanges. C'est amusant d'ailleurs parce que chez les Esséniens, donc il y a 2000 ans, il n'y avait pas vraiment de circulation d'argent, c'était vraiment plutôt des échanges, quoi, c'est-à-dire un peu comme sur la planète Vénus, c'est comme s'ils avaient eu un enseignement, disons, de cette planète-là, enfin ils l'ont eu en fait. Et des Vénusiens, à un moment donné, sont venus donner des enseignements à différents peuples, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau de la façon de vivre, que ce soit à différents niveaux. Et bon, ils ont été pris pour des dieux, bon, peu importe.
Les Vénusiens ne sont pas dans la dualité. Enfin, en tout cas, ils expérimentent un amour que nous ne connaissons pas, nous. Et ils s'occupent de nous. Ils veillent sur nous et ils nous envoient beaucoup d'informations pour nous aider à évoluer vers quelque chose de plus cool. Ils représentent beaucoup pour nous parce que on est tous en demande d'amour et c'est une planète qui nous en envoie énormément et qui le vit comme nous ne savons pas le vivre encore.
Les Vénusiens, ce sont des êtres qui sont grands, minces, presque androgynes, mais pas androgynes, et puis avec des cheveux blonds et longs. Il y a une bonté, une sérénité qu'on ne trouve pas sur Terre, en fait. Ce sont des êtres qui ont envie que la Terre évolue. Je veux dire, on passe quand même, par rapport aux autres planètes, on passe pour un peuple de barbares. Je dirais que les plus sympathiques diraient qu'on est au jardin d'enfants, les moins sympathiques diraient qu'on est vraiment au niveau des hommes préhistoriques dans leur connotation péjorative, quoi.
Y a-t-il du sexisme sur Vénus ?
Non, il n'y en a pas du tout. Mais justement, si sur Terre, on commençait à comprendre que toutes les expériences ont de la valeur et que toutes les personnes ne sont pas des personnes à part, s'il n'y avait pas cette séparation entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, parce que ça peut changer selon les époques, ça peut changer selon les ethnies, ça peut changer selon les peuples et les religions, donc ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Et si on considérait que ça fait partie de la diversité, de la multiplicité des beautés qu'offre l'expérience sur Terre, à ce moment-là, on n'aurait pas toutes ces problématiques. Donc c'est vraiment important de considérer les personnes et leur expérience comme quelque chose de précieux et de beau et de normal. De normal, je veux dire, il n'y a pas d'anormalité. Et c'est ça qui est important.
Avec l'intention, se connecter en quelque sorte à la dimension dans laquelle les consciences se trouvent une fois qu'elles ont quitté l'enveloppe physique, qui est une autre dimension, qui est une sorte de dimension de transition pour aider les consciences qui viennent de vivre leur vie à passer à autre chose et à préparer peut-être une autre vie ou une autre aventure. Et on peut, par la sortie du corps, sans mourir, encore une fois, sans mourir, accéder à ces autres dimensions. Donc, en vérité, les potentialités sont vraiment uniquement limitées par l'imagination.
J'ai pu suivre cette femme qui, au moment de sa mort, à un moment donné, dit « Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose. J'ai juste senti une impression de froid. » Et quand elle dit ça, donc nous, on est en voyage astral, on est à côté d'elle, qui vient de sortir de son corps parce qu'elle vient de mourir. Mais ce qu'il y a, c'est que la différence entre nous et elle, c'est qu'elle ne reviendra pas dans son corps physique. Donc nous, on va revenir dans le corps physique, mais il n'y a pas de différence. Et elle disait, mais moi, je m'imaginais que à la mort, il y a un grand voile qui allait se déchirer, que j'allais tout comprendre et tout ça. Et elle dit, je me rends compte que mon psychisme, je le garde. Et comme elle est morte d'une longue maladie, elle se dit, c'est bien que j'ai pu quand même cheminer et comprendre et nettoyer des vieilles histoires, parce qu'elle dit sinon je serai encore avec ces histoires-là. Sur les plans subtils, la mort est une naissance et la naissance est une mort à ces plans-là. La Terre est vraiment une école extraordinaire, on ne peut pas passer à côté. Donc on peut essayer de vouloir aller dans d'autres dimensions pour... uniquement pour rêver, mais on ne peut pas faire que rêver parce que justement on est là pour être des acteurs en ce moment en tout cas, d'une nouvelle terre, d'un autre monde, et c'est ça qui est important. Et là on sait à l'intérieur de soi qu'on a tous les possibles et qu'on n'est pas soumis simplement à ce qu'on est dans notre corps physique, ni à notre personnalité du moment, ni à l'espace, ni au temps. Et en même temps, même si on doit tenir compte de ça quand on est dans le corps physique, on sait qu'on est beaucoup plus que ça et beaucoup plus que toutes nos problématiques.
Donc le centre tout entier est une centrifugeuse, un genre d'engin, une station spatiale.
Les deux, plan A.
Et comment vous faites décoller ça ?
L'apparition des premières anomalies gravitationnelles a tout changé. Là, nous avons su que maîtriser la gravité était possible. Alors j'ai lancé l'élaboration d'une théorie et nous avons lancé le chantier de la station.
Mais la théorie n'est pas résolue.
Voilà pourquoi il y a le plan B. Le problème, c'est la gravité. Comment faire quitter la planète à une quantité suffisante de vie humaine ? Voici un moyen. Le plan B, la bombe démographique. Plus de 5000 ovules fécondées pour un poids total d'un peu moins de 900 kilos.
Et pour les élever?
On incube les 10 premiers grâce à l'équipement embarqué. Ensuite, grâce à la GPA, la croissance va devenir exponentielle. Et en 30 ans, on obtient une colonie de centaines d'êtres. La vraie difficulté pour une colonisation, c'est la diversité génétique. Aucun souci avec ça.
L'âme, donc, ou cette conscience, disons, qui va s'incarner, va avoir une polarité plus masculine ou plus féminine. Mais elle va faire des expériences forcément de vie en vie, parce que bon, ben, ces expériences de voyage hors du corps m'ont amené à comprendre que ben, on n'avait pas qu'une seule vie, qu'on s'incarnait, qu'on avait beaucoup d'expériences et que le corps n'était que le vêtement, enfin que, je dirais, était le vêtement en tout cas, qui nous permettait de faire ces expériences-là. Et un être qui va s'incarner va choisir à un moment donné. Par exemple, quand j'ai écrit les 9 marches, c'est les 9 mois où une entité vient sur Terre, donc les 9 mois de grossesse. Mais l'entité qui est féminine, là, que je contacte à ce moment-là, va très clairement dire, mais il faut que je m'incarne en fille de toute façon. Son incarnation précédente avait été aussi, elle avait été aussi une femme, mais là, elle dit, parce que j'ai un problème à régler avec mon père, qui a été un amoureux que j'ai éconduit. Il faut vraiment que, bon, qu'on règle cette histoire entre nous. Et donc, elle avait décidé de s'incarner en femme. Donc, c'était aussi une décision pour les âmes qui ont cette possibilité, disons, de choix, parce qu'il y a quand même une possibilité de choix, mais on n'est pas dans une famille par hasard. Et en même temps, l'incarnation, le sexe n'est pas du hasard, la race n'est pas du hasard. Il n'y a rien qui soit fait au hasard, de toute façon. C'était très intéressant d'avoir en même temps des échanges sur les plans subtils avec des êtres qui sont transgenres et sur le plan physique. Et c'était très intéressant de voir qu'en fait, ça appartient aussi à leur vie et que c'est une expérience qui fait partie de leur vie. Mais en même temps, que dans ce cas-là, les vies antérieures ont vraiment, les vies précédentes ont vraiment une grosse importance. Bon, une des expériences, c'est un enfant qui est un petit garçon et qui, devant la glace, mais pleure en disant « Mais moi, je ne suis pas un garçon. » Et il voit toujours en lui l'image d'une jeune femme. Effectivement, il était juste précédemment une jeune femme qui s'est tuée dans un accident de voiture, une jeune fille de 16 ans, 18 ans peut-être, qui s'est tuée dans un accident de voiture et qui avait bu ou qui avait pris peut-être une drogue, je ne sais plus. Mais qui, à ce moment-là, s'est incarné très rapidement et qui, en fait, ne voulait pas être un garçon.
Lors d'une sortie hors du corps, j'ai revécu une vie passée où j'étais une jeune fille. D'ailleurs, je suis restée une jeune fille parce que, selon les mémoires qui sont remontées, j'ai vécu un viol, puis j'ai été tuée. Et ce qui est très curieux, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours eu une hypersensibilité à la violence faite aux femmes et aux jeunes femmes en particulier. Ça m'a toujours mis hors de moi, je m'interpose dans le métro et c'est quelque chose auquel je suis très 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 sensible. Et maintenant je l'explique un peu plus concrètement, puisque manifestement, selon les mémoires qui sont remontées, j'aurais été moi-même une jeune fille qui aurait été agressée puis après tuée. Donc j'ai, par ces mémoires qui sont remontées dans une sortie du corps, je me suis revue dans une vie passée où j'étais une jolie jeune fille d'ailleurs. Voilà. Ce dont on se rend compte lorsqu'on sort hors de son corps, c'est que puisqu'on n'est plus lié à un corps physique et qu'on est à même de changer même la forme de son corps énergétique, homme, femme, corps d'homme, corps de femme, ça n'a plus véritablement de base concrète. On est plus à ce moment-là, il me semble, dans quelque chose qui relève de la sensation d'identité au-delà d'un genre, puisqu'on est avant tout conscience, avant d'être un corps, et à plus forte raison, avant d'être un corps d'homme ou un corps de femme. Ou un corps beau, ou un corps laid, ou un corps jeune, ou un corps vieux. On est une conscience.
une astuce pour ces cas-là, Doyle ?
Saut dans l'inconnu.
Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire.
À notre galaxie.
C'est parti.
Pas ici. On est en train de traverser le bulk, de l'espace au-delà de nos trois dimensions. On peut juste observer et prendre note.
C'est quoi ça ?
C'est eux, je crois bien.
Qui distordent de l'espace-temps ?
Est-ce que la conscience n'est le résultat de connexions chimiques dans le cerveau ou, en fait, bien plus, et peut-être que finalement le corps découle de la conscience et non l'inverse. Et c'est ce qu'intimement, maintenant, je sais.
Est-ce qu'on fait ça pour échapper à nos problématiques ? Et dans ce cas-là, il n'y a pas tellement d'intérêt. On ne va pas y aller pour espionner, on ne va pas y aller pour savoir ce que fait l'autre. Ou quelquefois, on peut se dire, moi, je vais le faire par curiosité. Ça ne suffit pas non plus. Et quelquefois, ça va arriver spontanément parce que c'est le bon moment. C'est une conscience de soi avec soi, c'est une conscience du monde, c'est une conscience du cosmique. Il y a des personnes qui vont passer leur vie à essayer d'attendre un voyage astral ou d'atteindre le voyage astral. Alors que ça n'est qu'un moyen pour attendre autre chose, pour aller plus loin ou plus en dedans de soi, mais vraiment pour à nouveau développer d'autres ouvertures qu'on peut développer autrement. Si on veut suivre ce que la planète va vivre, est en train de vivre, donc de ce passage vers une autre dimension, et si nous on veut être adéquate, il y en a évidemment qui vont aller encore plus vite et puis d'autres qui vont rester un peu dans la troisième. Trois dimensions, c'est quand même pas grand-chose. C'est longueur, largeur, profondeur, bon, c'est rien. Et si on veut passer à autre chose, il faut à un moment donné en finir avec nos vieilles histoires. Bon, évidemment, le grand transmutateur, c'est le cœur, donc c'est l'amour. Quand on a guéri tout ça, on passe vraiment à une vision élargie, plus cosmique, quoi, en fait, comme sur d'autres planètes.
Qu'ils ont choisi.
Pour qu'elle fasse quoi, Cooper ?
Qu'elle sauve le monde. Tout cela, c'est une chambre de petite fille. À chaque instant, c'est d'une complexité infinie. Ils ont accès à un temps et à un espace infini, mais rien ne les relie. Ils ne peuvent trouver un endroit précis dans le temps. Ils ne peuvent communiquer. C'est pour ça que je suis là. Je vais trouver le moyen d'informer Murphy, tout comme j'ai trouvé ce moment.
Mais avec quoi ?
L'amour, Tars, l'amour. Brand l'avait bien dit, mon attachement pour Murphy est quantifiable. C'est ça la clé.
On est censé faire quoi ici ?
Communiquer avec elle.
Besoin d'avoir de la science-fiction, des livres, des films qui nous montrent qu'il y a autre chose, qu'on est lié par autre chose, c'est bien qu'on est tous en recherche. Ça correspond effectivement à une interrogation contemporaine. ça nous permet aussi de rêver, hein, de nous extraire de notre vie quotidienne, de penser qu'il y a un autre fonctionnement possible en tant qu'être humain et aussi en tant qu'esprit.
Le guide du voyageur astral, création On Air de Camille Ducellier, réalisé par Nathalie Salles. Un grand merci à Anne Givaudan, Arnaud Cabi, Cécile Garin et Vassiliki. Composition originale, Isabelle Morichaud. Musique additionnelle, Scalpel et musique Guided Meditation for OBE. Extrait des films Total Recall de Paul Verhoeven et Interstellar de Christopher Nolan. Prise de son, Thomas Robin. Mixage, Valérie Lavalard. Création On Air, Irène Omelianenko, Inès De Bruyne.
Exceptionnellement, ce créationnaire a une prolongation, puisque samedi 28 novembre, Camille Ducellier, vous proposez à nos auditeurs de vous retrouver dans Paris.
Oui, alors venez prolonger ce voyage au Forum des Images ce samedi à 19h pour découvrir donc un projet qui est en lien avec cette émission qui s'appelle Reboot Me et qui est un art divinatoire documentaire. Donc voilà, c'est une expérience normalement qui se fait sur le web, mais qu'on fera donc dans la salle du Forum des Images avec des personnes du public.
Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a encore une autre possibilité?
Oui, alors la mise en ligne n'est pas tout de suite, c'est le 10 décembre. Et vous pourrez donc poser des questions aux quatre oracles que j'ai convoqués pour ce projet. Donc vous posez une question sur rebootme.fr et vous aurez une réponse sous la forme d'un montage documentaire aléatoire.
Demain, à 23h sur France Culture, dans Poésie et ainsi de suite, rendez-vous de Manou Farine avec le poète Lionel Trouillot, la musicienne Agnès Guéraud et Bernard Engel du collectif Les Livreurs Lecteurs Sonores. Mercredi 2 décembre, dans Création On Air, Petite métaphysique du cri de Catel Guillou et Céline Terce. Jeudi 3 décembre, ce sera pour l'ACR le spectre du spectre des spectres de Bastien Mignot et Véronique Lamandour.